France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Marc Louisada. Je suis né, il y a fort longtemps, dans une ville portuaire en Tunisie, à Bizerte. Et je suis pianiste. Bon, nobody's perfect.
Quand vous vous retrouvez à jouer sur une scène, vous avez une forme de rituel avant ou pas et...
Ah ben, si vous saviez, il y en a partout. Alors là, c'est fou.
Qu'est-ce qui vous aide ?
Oh ben, depuis que je n'ai plus mes parents, c'est toujours à eux que je pense. Je joue pour eux, c'est en train de se calmer, mais je pleure souvent avant d'entrer en scène. J'ai les larmes aux yeux. Les organisateurs de concerts sont un peu effrayés, montrent un petit peu le cœur chaviré, là, comme ça. C'est dur. Je suis avec toujours des... Pas des mains de Fatma, mais presque des petites choses sur moi. Il y a des tas de gris-gris. Je suis tellement superstitieux. Je mets certaines chaussettes que je ne mets qu'à certains concerts. Évidemment, là, dès qu'il y a même un petit liseré vert, c'est interdit. Je deviens complètement maniaque.
Parce que le vert dans un
théâtre... Le vert dans un théâtre est interdit. Une fois, j'ai essayé, mais puis le concert s'est quand même pas mal passé. Je me dis, bon, peut-être, allez, on va peut-être passer outre.
Vous dites que vous êtes superstitieux. Vous avez d'ailleurs une spiritualité quelconque, une religion
Non. Non, je suis athée, mais quand même, je peux vous le dire, quelques jours avant la mort de ma mère, après avoir dormi à ses côtés dans la chambre d'hôpital, je revenais du Japon, je me suis endormi sur mon bras, et mon bras, je me suis broyé le nerf radial. Et le lendemain, je suis allé voir un médecin qui m'a dit « Vous ne pourrez pas jouer pendant 2 ans ». J'étais persuadé que j'avais fait un AVC. Et je suis revenu, et puis ma mère est décédée, donc je ne l'ai pas revue. Et après la cérémonie funéraire, il y a eu une cérémonie de l'incinération. Je suis allé le lendemain, tout seul, sur le lieu où on avait dispersé les cendres de ma mère. Il y avait encore les cendres de ma mère. Et... il y a eu un rayon de soleil sur moi et sur les cendres. J'ai mis les cendres sur ma main et immédiatement, mon bras s'est guéri. Mais c'était fou, alors que je suis resté une semaine entièrement paralysé, sans aucune possibilité. Et là, le soleil, le rayon de soleil, le sourire de ma maman... Et la cendre sur les mains, mais j'en suis parvenu, je vous assure que je me suis dit, il y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose de terrible, mais de magnifique. J'y crois. Après la mort de ma mère, Paul...
Badura Skoda.
Oui, Paul Badura Skoda. Il a été, lui et Elisabeth, sa compagne, qui a été la femme absolument idéale, la femme la plus... Elle est française, Elisabeth Villatte, qui travaillait à la Bibliothèque Nationale, et qui l'a soutenue, qui l'a épaulée, qui l'a... Et puis dans la maladie, elle a été très très courageuse. Mais ils m'ont aidé les deux. D'une manière, ils ont été meilleurs que tous les psychologues du monde. Ils m'ont aidé, ils m'ont ouvert leur cœur, leur maison. J'ai pu aller jouer des œuvres nouvelles. Il m'a donné l'espoir pour le futur en me disant « tu peux faire ce que tu veux ». Et ça, on m'avait jamais donné cette liberté. Puis bon, je sais toujours que c'est tellement difficile de faire ce qu'on veut, et même de le faire bien, c'est presque pratiquement impossible. Mais d'avoir la bénédiction d'un homme aussi grand, aussi... Enfin, tous les superlatifs sont pas assez grands, tellement il était merveilleux. Et... C'est quelqu'un qui a souffert beaucoup, je pense. On l'a pas assez compris, alors que c'était un immense pianiste, grandissime. Moi, je me souviens, je l'avais écouté à New York. J'avais écouté deux jours auparavant le 4e concerto de Beethoven avec Radulopou au Carnegie Hall, qui était absolument magnifique, très inspiré. Et puis, Boll jouait deux jours après la sonate en La majeure, la 959. Mais c'était hors du temps. On était. Mais jamais j'avais entendu quelque chose d'aussi beau. Et puis moi j'avais, je pense, je devais jouer entre les deux concerts, je devais faire le quintet de Dvorak avec le Fine Arts Quartet, on a joué. Mais d'entendre après Paul Badura-Skoda, mais c'était immatériel. C'est, pour moi, il est allé plus loin qu'Edwin Fischer. C'est le véritable héritier d'Edwin Fischer. Quand on entend Fischer dans la sonate pastorale de Beethoven ou l'Empereur de Beethoven, voilà. Cette sonorité d'une tendresse, d'une beauté, d'un moelleux et d'une sonorité qui vous déchire le cœur, il l'a fait. Il l'a fait. Et il l'a fait très loin. C'est vrai qu'il l'a fait à New York. Vienne n'a pas été très sympa. Ils n'ont jamais été gentils avec lui. Parce qu'il y avait Brandel, parce qu'il y avait, il y avait les autres. Mais quand même... Quand il a joué les deux dernières années de sa vie, les trois dernières sonates de Beethoven et les trois dernières Schubert, devant une salle comble au Musikverein, j'ai merveilleusement belle. Moi, je suis allé après à son dernier récital, qui était dans une plus petite salle. Il avait déjà un pied dans la tombe, il était quasiment mourant. Mais il a fait une sonate en do mineur de Mozart. Je pleurais de la première note à la dernière. Fabuleux, cet homme, c'est à la fois un homme qui jouait pour essayer de ne pas mourir. Et grâce à Mozart, il était là. Quelle preuve d'espoir pour se dire, allez, il faut que je survive encore.
Vous pensez que...
Ah ben moi, je me tuerais. Ah ben, si je ne peux plus jouer... Bon, ça dépend comment. Si je ne veux plus jouer, ça, c'est une autre chose.
Ça vous a effleuré, parfois ?
Pendant le confinement, ça m'a effleuré. Oh ben, pendant le confinement, il y avait trop d'idées noires. C'était effrayant. Surtout le premier. En se disant, bon ben... L'univers est en train de mourir, tout est en train de... La planète est en train d'agoniser, et je pense d'ailleurs qu'elle est en train toujours. Hein. C'est pas, on est loin, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, de ne plus pouvoir jouer si on ne peut pas jouer. Bon, bah, s'il n'y a plus de concert, si on ne peut plus jouer, ça, bah, oui, bah, on continuera toujours à jouer pour nous. Et entre amis, entre...
Mais c'est une conversation que vous avez et que vous n'avez peut-être pas autrement, cette conversation avec la musique.
C'est ça. La véritable conversation, c'est entre la musique et moi. Et moi-même. Et bon, le public, si on n'arrive pas à jouer pour lui, ben tant pis. Hein. C'est tellement beau de prendre une partition et deux enchaînements harmoniques qui vous font pleurer. Il n'y a pas plus beau.
Et en même temps, est-ce que ça n'isole pas aussi?
Mais oui, mais on aime être isolé. Qu'est-ce que vous voulez?
Vous ne souffrez pas de cette solitude?
On est très, très seul.
Le pianiste encore plus.
On est très seul. Et c'est pour ça que finalement, j'en suis venu à avoir quelqu'un à côté de moi pendant le concert qui me tourne les pages. Parce que ça me rend plus... J'aime avoir une personne. Je déteste les gens qui jouent avec des iPads. Je leur souhaite uniquement qu'il y ait une panne. pour voir. Parce qu'après, ils sont assez surpris. Puis... d'avoir une personne, c'est tellement, on joue pour elle ou pour lui. Puis le papier, c'est tellement beau.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Marc Louisanda.
Et cette vie solitaire, pour y revenir un instant,
oui,
comme
vie...
ça, de concert, de tournée.
On l'a choisi. On l'a choisi d'être solitaire. Moi, j'ai choisi aussi même dans ma vie personnelle. J'aurais pu avoir beaucoup d'occasions de vivre de grandes aventures, des grands amours qui m'ont été quasiment interdits parce que... les personnes avaient peur que le piano soit au-dessus d'elles. Hein, c'est ça. Et évidemment, c'était dur. Ça a été un choix de choisir cela. J'essaye d'être le moins solitaire dans mes relations. J'essaye de m'entourer, mais qu'est-ce que vous voulez? La musique, elle nous envahit, et c'est le pire des amants et des maîtresses. Le pire. Mais enfin, on aime ça. Et c'est vrai que les personnes qui sont tombées amoureuses de moi se sont détachées. Et moi aussi, très vite. Donc je suis passé à côté du bonheur, mais quand même, le piano, c'est peut-être un autre... une autre sorte de bonheur, mais qui ne... J'aurais peut-être préféré avoir d'autres choses. C'est vrai, j'ai fait le choix, et puis j'ai fait le choix de ma vie. Et évidemment, d'orientation personnelle. J'envie un petit peu mes collègues qui sont mariés, qui ont des enfants, parce que
le fait de transmettre, c'est quelque chose d'important, peut-être d'une façon encore plus accrue.
C'est très important de transmettre. Alors bon, j'aurais voulu transmettre à quelqu'un de mon propre sang, mais bon, ça sera dans une autre vie. Mais j'essaye de transmettre le plus possible avec mes étudiants. Ils sont ici comme ils sont chez eux. Ils peuvent travailler, ils peuvent manger, ils peuvent regarder des films, ils prennent les doigtés des partitions pour s'en aller vers d'autres voyages. Je fais en sorte qu'ils soient à l'aise chez moi. Voilà. Mais je les aime parce que sinon je ne le ferais pas. Je sais que lorsque je fais des soirées, ils ne veulent plus partir. Je suis obligé de les mettre dehors. Je suis obligé, je leur dis, écoutez, il faut quand même partir. Mais très souvent, alors, en plus ici, c'est insonorisé. Après qu'ils aient vu un grand film, qu'on ait dîné, alors après, bon, bah, il y en a qui se mettent au piano et qui jouent. Il est 2h du matin. C'est rigolo, ça me fait plaisir. Mais c'est bon, c'est pas la même chose que d'être le père de... Voilà, mais c'est pour cela aussi qu'il y a des grands moments de mélancolie et de solitude. Et ça, peut-être c'est pour cela que la musique de Schubert est arrivée au bon moment, si je peux dire. Parce que qu'est-ce qu'il était seul, celui-là, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a été mal compris. Il a perdu sa mère très très tôt, et son père s'est remarié immédiatement. Je crois qu'ils étaient beaucoup de frères et sœurs. Hein. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir ? Alors, on ne sait jamais ce qui s'est passé. On pense qu'il il se serait vengé. Il avait séduit peut-être sa belle-mère. Et le père l'a mis dehors. On ne saura jamais la raison pour laquelle il l'a renvoyé de la maison, du domaine familial. Et puis, bon, Schubert était très complexe. Là aussi, on ne saura jamais ce qu'il était dans sa vie. Mais moi, je trouve qu'on peut, par certains petits messages, dans l'écriture pianistique, on peut se rendre compte d'une bisexualité. Ce qui est assez rare chez les compositeurs, mais on sent qu'il y a quelque chose, une douleur et une solitude dans les unissons. Il y a une obsession des unissons. Et donc, il y a quelque chose de très troublant dans cette écriture. On ne sait rien, hein, on ne saura jamais rien de Schubert. On ne sait pas du tout, d'ailleurs, comment il a contracté la syphilis. C'est pas important de savoir, d'ailleurs. Ça n'a aucune importance.
Quand vous parlez d'incompris, l'incompris de Comencini, c'est un film qui vous ravage.
J'adore, je l'ai vu tellement de fois. Puis j'adore cette scène monstrueuse quand le petit efface la voix de sa mère, accidentellement, et qu'il essaye de récupérer. Mais quel grand film, quel grand... Ça, c'était le grand cinéma italien. Quand même, Comencini, Visconti, Fellini, Pasolini... Et surtout Antonioni, qui a filmé la solitude et l'incommunicabilité comme jamais. Moi, j'ai une passion aujourd'hui pour Antonioni, que je n'avais pas avant. Parce que ça bouge plus, parce que c'est immobile, et parce que c'est entre guillemets un peu chiant, mais tellement bouleversant.
Quand on vous entend parler comme ça, je me demande quelle est la place des images dans votre pratique à vous.
La musique est tellement forte, on n'en a pas besoin. Mais en ce qui concerne la mise en scène, la construction de l'œuvre, oui, c'est une véritable mise en scène. La construction, l'architecture.
Une partition comme un film, vous voulez dire.
Voilà, l'architecture.
Sur le montage.
Sur les fondus enchaînés. il y a des véritables fondus enchaînés tellement merveilleux quand une image s'efface et l'autre apparaît d'une manière tellement sublime. Moi, plus je vais, plus je vieillis, plus je trouve que la caméra doit rester immobile. Moins ça bouge, plus c'est beau. Et je le dis à mes élèves, à mes étudiants, quand ils ont des problèmes avec des adagios de Mozart et des mouvements lents de Beethoven, très souvent, bon, ils se mettent à faire des choses, à trouver des contrechamps par-ci, des contrechamps par-là. Je leur dis, mais jamais, il ne faut pas, ça ne sert à rien. Alors, ils me disent, oui, mais moi ça me plaît. Mais je lui dis, mais non, tu réécouteras ça après, mais dans un mois, tu vas te demander pourquoi ça sort, cette voix, ça ne sert à rien. La beauté, c'est la simplicité. Alors, ils n'arrivaient pas. Une fois, ben, je leur ai montré Voyage à Tokyo, de Ozu. Ce film terrible sur les parents qui sont maltraités par leurs enfants et qui en meurent. Le film est traité d'une telle manière, avec une économie de moyens. Il a inventé une technique phénoménale. La caméra est au ras du sol sur le tatami. C'est une technique qui a été prise après par Kubrick, bien après, des années. Mais Kubrick, lui, il ne peut pas rester immobile. Il faut que ça bouge, il faut que ça tourne. Alors que Ozu, ça ne bouge pas, il n'y a rien, et on pleure. Et le cœur s'ouvre.
J'entends parler comme ça de montage, de plan fixe. Je pensais aussi au travail de l'enregistrement. Est-ce que vous êtes plutôt partisan du plan séquence ou
Je suis tout à fait plan séquence. C'est un mélange. Parce que le disque doit nous donner l'illusion de la perfection. Donc, le live est impossible. Je pense pas. Tous les disques qui sortent live sont des faux live. On enregistre deux répétitions, on enregistre deux concerts et on fait un montage après le concert. Non, étant donné qu'on nous donne la possibilité de faire un disque dans des conditions parfaites, moi, ma technique, c'est de faire des longues prises. Et je sais que, en ce qui concerne le Schubert que j'ai fait, j'ai enregistré au départ 3 sonates reliques et 3 si bémols. Deutsch 960. Et après, on a travaillé mouvement par mouvement. Après, j'ai voulu faire un mouvement entier, toujours pour avoir la ligne, la forme. Une fois qu'on a eu toutes ces grandes lignes enregistrées, alors après, on peut faire du sur-mesure en faisant peut-être 10 fois, 20 fois une ligne. Mais c'est quand il y a quelque chose qui coince. Oui, alors le problème, c'est surtout que lorsqu'on fait ce travail un petit peu rébarbatif, c'est pas très sympa pour l'inspiration. Parce qu'on ne peut pas être inspiré 20 fois de suite sur une ligne qui est juste techniquement pas parfaite. C'est pour ça que je tenais à avoir le plan séquence. Je suis fasciné par les plans séquences au cinéma, évidemment.
Si on devait se quitter avec une scène de film, peut-être plus qu'avec une musique. Ou bien avec une scène de film accompagnée d'une musique, qu'est-ce que ce serait là, aujourd'hui?
C'est difficile. C'est l'adagietto. C'est l'adagietto de Gustav Mahler. Alors, de Bernard Haitink, parce que c'est le disque que je m'étais acheté quand j'avais 11 ans. J'avais acheté un 45 tours et je l'écoutais jour et nuit.
En voyant les images.
En voyant les images. Thank you.
Comme promis, l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler par Bernard Haitink referme cette série des grands entretiens avec le pianiste Jean-Marc Louisada. Équipe de réalisation, Gilles Blanchard, Sébastien Huel, Mathieu Leroux et Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et l'application Radio France. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.